d'aller suivre est une rediffusion.
Littérature sans frontières. Une terre, une auteure. Catherine Fruchon-Toussaint, destination le Brésil.
Bonjour à toutes et à tous. On l'a découverte avec un premier roman qui prenait sa source en Guadeloupe. On la retrouve aujourd'hui au Brésil, dans les coulisses du tournage d'un film français porté uniquement par des interprètes noirs. Sachant qu'elle a aussi des ancêtres allemands, c'est dire que notre invitée est à elle seule un festival de culture. Festival justement celui de Cannes, en 1959, qui ouvre son nouveau roman, puisque le film qu'elle nous raconte entre les lignes offre à son réalisateur Marcel Camus la prestigieuse Palme d'Or. Il s'intitule Orfeu Negro. Extrait.
Você não viu o carnaval, minha filha?
Não.
Ninguém resiste a essa doideira.
Como é, dona?
Você não se lembra? Eu disse.
Que maravilha! E eu que já gosto de você. Claro, o Feu gosta de Euridice, pois acabais de me contar.
Escuta bem. Se eu vejo ela de novo com você, eu acabo com a raça dela.
Bonjour Estelle Sarabulle.
Bonjour.
Nous voici donc avec cette archive au cœur de ce qui a sans doute lancé l'écriture de votre nouveau livre, paru sous le titre « Les étoiles les plus filantes » chez Liana Levy. Une fiction donc qui s'inspire de ce film « Orfeu Negro ». Est-ce que vous vous souvenez de vos émotions quand vous l'avez vu la première fois ?
Oui, parce qu'en fait ces émotions sont intactes et reviennent chaque fois que je le revois. Donc ça m'émeut beaucoup ce film, vraiment ça me met les larmes aux yeux parce que pour moi c'est une réussite totale, esthétique, humaniste, j'aime voir, la musique aussi me touche beaucoup et je trouve que là on a un mélange parfait qui à chaque fois m'étonne et m'émeut.
Est-ce que, ou plus exactement, en quoi ce film qui est une adaptation du mythe d'Orphée et Eurydice dans les favelas de Rio, se démarque-t-il des autres pour vous ?
Mais déjà, le fait d'avoir transposé ce mythe qui est quand même fondamental dans la culture occidentale, ce mythe grec, d'avoir eu l'idée de le transposer dans le Nouveau Monde, dans les favelas, je trouve qu'il y a une audace là qui est vraiment intéressante. Ça aurait pu ne pas fonctionner du tout et ça fonctionne très bien. Il y a un côté un peu à la fois naïf dans l'approche de ces deux amoureux et en même temps, on s'achemine inexorablement vers le drame qui est à l'origine du mythe grec. Et je trouve que ça aussi, c'est très réussi et très émouvant. De toute façon, l'histoire d'Orphée et Eurydice, c'est une histoire qui nous marque tous. C'est une des plus belles histoires d'amour. Et voilà, là, c'est vraiment transposé de façon magnifique dans ce Rio. Donc, ça m'avait marqué déjà à l'époque.
Et aussi avec cette singularité, comme je le disais tout à l'heure, qu'il s'agit d'interprètes noirs, d'interprètes que le réalisateur est même allé chercher dans la rue, donc des non-professionnels.
C'est ça, ouais, ouais.
C'est aussi ce qui vous avait frappé ?
Absolument. Bah déjà, effectivement, un casting entièrement noir, c'est très rare. On est en 1958 quand c'est tourné. Ça reste rare encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment que la France ait fait ça. Finalement, on regarde toujours vers les États-Unis, mais on s'aperçoit que souvent, la France a été précurseur dans plein de domaines. Et donc, voilà, là, on a un casting entièrement noir. Et en plus, de non-professionnels, ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque, c'est pareil, c'était sans doute plus rare. Alors, il y a quand même deux actrices professionnelles dans le film. celle qui joue Eurydice, et puis celle qui joue sa cousine, qui est une actrice brésilienne, qui a fait carrière ensuite dans les telenovelas. Mais tous les autres, effectivement, sont des acteurs non professionnels, et il y a une fraîcheur qu'on ressent aussi.
Une vraie nouveauté, et qui donnait de la visibilité à une partie du monde qu'à l'époque, on ne voyait pas sur grand écran.
Ouais, complètement. Même si on connaissait un petit peu le Brésil, ce qu'on en connaissait, c'était plutôt les plages de Copacabana et l'élite du pays, qui est blanche, très éduquée, européenne en fait. Et donc là, lui, il tourne sa caméra vers un Brésil qui effectivement n'est pas encore connu à l'époque, à tel point que la bossa nova, qui est une musique elle-même issue des beaux quartiers, pour le public du monde entier, elle va être associée aux favelas. Et pour beaucoup de monde, on pense que c'est la musique des favelas, alors que pas du tout, la musique des favelas, c'est plutôt le samba. Mais voilà, on découvre ces images à cette époque-là, et c'est vrai que ça a dû être un choc.
Un film qui a été un peu comme une comète, une étoile filante, pour reprendre le titre de votre roman, qui à la fois a eu ce succès international, Palme d'Or, on l'a dit, mais également un Oscar, et qui au final n'a pas porté chance ni aux réalisateurs, ni aux actrices et acteurs, qui ensuite n'ont pas pu confirmer leur talent, qui ont peut-être même été un peu relégués dans l'oubli, dans le silence. Est-ce que c'est cette... tomber dans l'oubli, cette absence de traces après le passage de la comète qui ont aussi suscité votre envie d'en savoir plus, Estelle Sarabulle?
Tout à fait, parce que c'est vrai que sur ce film qui m'avait beaucoup marqué, je n'ai jamais trouvé beaucoup de témoignages ou d'archives. C'est un film qui a été complètement effacé après par l'arrivée de la nouvelle vague. Donc ça m'intéressait d'autant plus moi en tant que romancière d'essayer de combler ce trou, cette absence, et d'écrire le livre que j'aurais aimé lire sur ce film.
Donc plongeons avec vous dans cette histoire qui devient roman sous votre plume et qui imagine un an avant La Palme le tournage de ce film avec des personnages principaux renommés ici puisque c'est une fiction. Le réalisateur devient Aurel Marquant, son actrice principale Gypsy, Marpessa Dawn à l'origine, et de nombreux personnages secondaires, Norma, Eva, comédienne brésilienne et antillaise, qui croise cependant des personnes réelles. Vinicius, le poète brésilien auteur de la version théâtrale, Kubitschek, le président du Brésil à cette époque, sans oublier Gordin, le producteur, et encore moins Tom Jobim, Baden Powell et João Gilberto, illustres musiciens de l'époque, inventeurs donc de ce nouveau genre, la bossa nova, dont on voit avec vous la naissance et l'importance. Bref, à vous lire, Estelle Sarabulle, on se rend compte à quel point votre roman, par cercles successifs, propose à la fois un regard sur le cinéma, les femmes, l'amour, la discrimination sociale et raciale, voire l'art comme objet de la géopolitique de l'époque, sans oublier le portrait d'un pays, le Brésil, qui rêve d'un avenir égalitaire et qui se fait rattraper par la dictature. C'est incroyablement riche. Pourquoi est-ce que vous aviez envie de lier toutes ces planètes? C'était pour avoir un tableau complet de la galaxie?
Oui, vous l'avez très très bien résumé. Effectivement, je voulais partir du film, voire de l'histoire d'amour au départ entre le réalisateur et son actrice, pour aller ensuite vers des cercles de plus en plus grands, jusqu'à la grande histoire. Moi, ce qui m'intéresse toujours en tant que romancière, c'est partir du plus intime et de voir comment en fait la grande histoire nous traverse tous, à notre insu souvent, et peut expliquer des choses. Donc les trajectoires du réalisateur et des acteurs du film, et des musiciens, me semblaient aussi être très révélatrices d'une époque plus large, celle de la guerre froide, de la fin des années 50 et de la compétition que se livrent à ce moment-là les grandes puissances, que ce soit les États-Unis, le Brésil et la France.
Et c'est d'autant plus légitime que ça rappelle aussi les différents cercles de Dante.
Oui, c'est vrai, j'avais
pas
pensé.
Pour aller jusqu'à l'enfer.
Absolument.
Et l'enfer, c'est le thème principal d'Orphée et Eurydice.
Oui.
Puisqu'il s'agit d'un amoureux qui va rechercher sous terre son amoureuse décédée et qu'il veut absolument ramener à la vie.
Absolument, c'est vrai. On peut le lire comme ça, effectivement. Parce qu'en plus, dans le mythe grec, l'enfer, ce n'est pas tout à fait l'enfer chrétien. Ce n'est pas forcément un endroit horrible où on met les gens pour les punir. C'est juste le pays des morts. Et effectivement, c'est vrai que Orphée va chercher Eurydice au pays des morts. Marcel Camus, à un moment, effectivement, va chercher toute la vitalité du Brésil et essaye de la mettre au jour. Et puis finalement, comme Orphée se retourne et perd son Eurydice, peut-être que après ce film, Marcel Camus a perdu ce don de raconter des histoires merveilleuses. Les acteurs n'ont pas pu aller jusqu'au bout de la carrière qu'ils auraient aimé. Donc effectivement, on peut faire un parallèle entre les deux.
Est-ce que vous vous êtes beaucoup documenté, Estelle Sarabulle, ou vous avez laissé aussi votre imagination prendre le pouvoir ?
Alors, en tout premier lieu, je voulais que mon imagination prenne le pouvoir et remplisse les blancs de cette histoire, tout en étant crédible. Donc les archives ont plus été pour moi un support pour vérifier que ce que j'avais envie d'imaginer pouvait tenir la route, plutôt que vraiment le matériau brut que je voulais restituer dans le roman. Je ne veux jamais que la part d'archives et d'histoire prenne le pas sur la fiction chez moi. Donc c'est plutôt comme un matériau qui m'a nourri, mais au même titre que le film lui-même m'a nourri, puisqu'il suffisait parfois que je regarde, que je revisionne des extraits du film, des images, pour que l'imagination se mette en marche et que je continue à avancer dans l'écriture.
Mais en même temps, en effet, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination parce que, par exemple, Gypsy, qui est l'actrice principale du film, on la voit à la fois évoluer à Paris, dans les milieux luxueux aussi du cinéma, mais on la voit se promener dans les favelas où elle va voir dans une maison très misérable la famille d'une autre actrice. Comment est-ce que vous vous nourrissez pour justement faire déambuler votre personnage dans autant de sphères différentes ?
Mais je me suis mise à la place de cette actrice. Donc dans la réalité, c'était Marpessa Downe, sur laquelle on a peu d'éléments aussi, mais qui m'a toujours fascinée. D'abord parce qu'elle est très belle, et ensuite parce qu'elle venait, elle arrivait des États-Unis dans ses années 50, elle-même de mère noire et de père philippin. Donc déjà, il y avait un mélange qui l'ouvrait vers le monde. Elle quitte les États-Unis pour faire carrière en France. Elle se retrouve au Brésil, emmenée par ce réalisateur. Et j'avais envie de restituer d'où elle venait, qu'est-ce qu'elle pouvait avoir en tête, c'était quoi son histoire familiale et intime, qu'est-ce qui se jouait pour elle dans ce tournage et qu'est-ce qu'il advenait d'elle après. Donc tout ça, j'ai laissé libre cours à mon imagination pour essayer de lui restituer une vie.
On pourrait écouter mille et un titres de musique brésilienne pour illustrer notre conversation. Mais est-ce qu'il y aurait un morceau en particulier de Bossa Nova, peut-être que vous aimeriez entendre maintenant, Estelle Sarabulle ?
Bien sûr, il y a les morceaux qui sont liés au film, qui sont très beaux. Sinon, il y a le premier titre de Joao Gilberto qui a lancé la Bossa Nova, Chega de Saudade. Si vous l'avez, c'est merveilleux.
On l'a forcément et on l'écoute avec vous.
Vai, tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui d'Estelle Sarabulle pour parler, danser presque, tant la matière est festive, en tout cas pour feuilleter son nouveau roman intitulé « Les étoiles les plus filantes » paru aux éditions Liana Levy. On l'a dit en première partie, une fiction qui imagine le tournage au Brésil du film « Orfeu Negro » Palme d'Or en 1959 au Festival de Cannes et oscarisé par la suite également. Un roman très riche et porté par trois femmes, trois actrices. Gypsy, l'américaine, Norma, brésilienne, issue des quartiers pauvres, et Eva, comédienne antillaise. Trois tempéraments différents, trois cultures différentes. Qu'est-ce qu'elles incarnent pour vous, Estelle Sarabulle ?
Elles incarnent déjà la diversité du statut d'actrice. Qu'est-ce que c'est qu'être actrice ? Dans un cas, c'est quelque chose que l'une d'entre elles, Eva, a toujours voulu et voilà, veut mener absolument. Dans le cas de Gypsy, c'est sans doute un souhait qu'elle a, mais elle sait que ça va être contrarié parce qu'elle vient des États-Unis et que c'est très dur. Et puis, il y en a une sur qui ça tombe, comme ça, elle s'y attendait pas et elle y voit une opportunité d'ascension sociale. Donc voilà, je voulais montrer déjà qu'on partait pas forcément quand on était. Enfin, toutes les actrices sont différentes et ont leurs histoires et leurs trajectoires. Et ça me permettait aussi de montrer combien ces femmes, sur ce tournage, peuvent être, entre guillemets, un peu concurrentes, mais surtout peuvent être aussi très solidaires et être au service d'une œuvre et se serrer les coudes pour que ce film voie le jour et essayer de se comprendre entre elles. Donc ça m'importait de montrer ça, une espèce de solidarité féminine dans le milieu artistique.
Avec en effet au début peut-être une rivalité et ensuite quelque chose qui se transforme en amitié, voilà. Avec une très belle scène vers la fin qu'on ne va pas dévoiler, mais où toutes les trois, elles vont voir une femme un peu médium, ouais. Et elles vont vivre ensemble une expérience un peu surréaliste, ouais. Qui va beaucoup les rapprocher.
Oui, oui, elles font une espèce d'expérience mystique qui, pour moi, répond à une scène du film qui existe, qui est une séance de candomblé très impressionnante dans le film, et réelle, hein, ça a été tourné vraiment lors d'une cérémonie. Et donc, bah, moi, je prends cette cérémonie et j'en fais quelque chose qui unit ces trois femmes qui ont chacune leur tourment, leur histoire et qui vont se retrouver, se reconnaître avec leur souffrance commune. Et puis ensuite, il y a un côté solaire puisque cette communion qu'elles font chez cette dame religieuse, on va les retrouver à Cannes, à se baigner ensemble dans une calanque et de nouveau être en communion autour du film une fois qu'il a été réalisé.
Être femme, être actrice, être noire sont des questions majeures ici, avec tout ce que ça induit à cette époque. La déconsidération, le mépris, ouais. Le harcèlement sexuel, le racisme, mmh. Et une carrière pleine d'embûches. Mais est-ce que selon leurs origines, que ce soit les États-Unis, le Brésil ou les Antilles, selon vous, leurs expériences sont différentes ?
Non, non, je crois qu'elles ont quelque chose de commun, mais qui est commun à toutes les actrices, surtout à l'époque. D'ailleurs, dans le livre, j'ai mis en exergue quelques extraits de Blonde de Joyce Carol Oates qui parle de Marilyn Monroe. On est dans une toute autre dimension avec Marilyn, mais finalement, elle a été manipulée un peu par ce que attendaient d'elle les réalisateurs et les studios. Et à une échelle moindre, c'est le cas aussi pour mes héroïnes, comme ce fut le cas de Brigitte Bardot et d'autres. Là, je crois qu'il y a vraiment une communauté d'expériences qu'ont connu les femmes actrices dans cette société-là, à cette époque-là, que je voulais restituer. Et ensuite, bien sûr, il y a l'expérience particulière d'être noire. Mais là encore, c'est pas pareil d'être une noire du Brésil, une américaine ou une antillaise. Et je voulais montrer qu'il y avait des traits communs, mais pas forcément la même expérience. Avec aussi l'idée, malheureusement, que selon la tonalité de la peau, on n'a pas forcément la même carrière. Plus on est clair, plus on a peut-être une chance de s'en sortir. Donc voilà, ça faisait beaucoup de thèmes à aborder, mais qui traversent ce film et qui a traversé cette époque. En tout cas.
Mais en quoi leur expérience est-elle différente du coup selon qu'elles sont des États-Unis, du Brésil ou des Antilles ?
Eh bien, au Brésil, la population est très mélangée et le racisme qui est absolument structurel et qui existe est peut-être moins brutal que ce qu'il y a aux États-Unis. C'est-à-dire qu'une actrice noire au Brésil va avoir son champ de rôle possible très réduit, mais va pouvoir faire carrière. Et c'est le cas donc d'une des actrices du film qui donc est devenue une grande comédienne grâce notamment aux télénovelas. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus difficile à cette époque de faire carrière. Il y en a eu certaines, je pense par exemple à Dorothy Dandridge, ça s'est mal fini, elle a fini par se suicider. Et il n'y en a pas eu d'autres de cette envergure-là à l'époque, hein. C'était très très fermé. Un petit peu moins chez les hommes, on a chez les hommes Harry Belafonte, Sidney Poitier.
Qu'on voit d'ailleurs, qu'on croise ici dans votre roman.
Mais ils n'ont pas d'équivalent féminin à l'époque, donc c'est très compliqué. En France, c'est un peu la même problématique aussi. En revanche, sans doute que la société est moins violente en France qu'aux États-Unis. Donc, ça ne va pas les aider beaucoup dans leur carrière, mais la vie en dehors de la carrière est peut-être plus facile pour une Antillaise que pour une Noire américaine.
En effet, on sent qu'Eva est plus détendue peut-être que ses deux autres amies.
Ouais.
Eva, qui est martiniquaise et pas guadeloupéenne, comme vos origines.
Oui, c'est pas forcément tout lié à moi. Et puis, de toute façon, Martinique-Guadeloupe, c'est pas bien différent.
Quelqu'un dit néanmoins dans votre roman, j'imagine que ce n'est pas facile d'être talentueuse et noire.
Mm-hmm.
Donc nous sommes en 1958.
Oui.
Est-ce que selon vous, aujourd'hui, c'est plus facile, Estelle Sarabulle?
Ça commence un petit peu à bouger, mais c'est pas encore gagné. On l'a vu encore récemment avec toutes ces actrices qui demandent à avoir des rôles très larges, très riches, aussi riches que ce qu'on peut proposer à des actrices blanches et qui ont encore du mal à sortir des stéréotypes. Donc 60 ans plus tard, malheureusement, ça perdure. Mais à l'époque, c'était encore plus fort et Marpe Saldaña en a fait les frais puisque c'est une actrice qui malheureusement n'a pas eu des rôles à la mesure de ce à quoi elle aspirait et elle en a été très très meurtrie hein, jusqu'à la folie. Donc voilà.
Vous voulez dire qu'elle a perdu vraiment la raison ?
Alors, je ne connais pas, on n'a pas assez d'indices sur sa vie pour en être sûr, mais j'ai entendu quand même des témoignages d'autres acteurs de cette époque qui disent ça. Qu'elle en a fait en tout cas une très très grosse dépression qui a pu mener à une certaine instabilité.
Et vous décrivez aussi une scène terrible dont cette fois Gypsy est la victime avec un photographe qui lors d'une séance photo essaye ni plus ni moins de la violer. Évidemment, ça nous fait penser au mouvement MeToo qui néanmoins reste très récent.
Oui.
Et on se dit donc pendant toutes ces années,
absolument,
combien de femmes, de centaines, de milliers de femmes
oui.
ont dû subir ça. Quand vous écriviez cette scène, vous y pensiez ?
J'y pensais. Combien de starlettes ont subi ce sort en France comme aux États-Unis hein. On en parle un petit peu maintenant, mais il y a plein de cas. Il y a eu d'ailleurs un cas que j'évoque très rapidement dans le livre qui s'est passé en 56, je crois, au Festival de Cannes, où il y a une starlette qui était, je crois, avec Robert Mitchum. Alors, ce n'est pas Robert Mitchum qui l'a agressé, hein. Mais il y a eu comme ça une soirée un peu ambiguë, des photos d'elle prises nues, ça a fait scandale. Le scandale n'a pas éclaboussé Robert Mitchum. En revanche, elle, sa carrière a été terminée et elle aussi, ça s'est terminé par un suicide. Donc il y a eu des cas comme ça. Puis bon, je ne parle pas des États-Unis où là, on a beaucoup d'exemples de choses assez violentes. Même les stars de l'époque, finalement, ont toutes subi des assauts sexuels. Marilyn Monroe, la première. Donc c'est vrai que c'était monnaie courante à l'époque et il n'y avait pas effectivement le MeToo qu'on a aujourd'hui. Donc ça a perduré des décennies.
Donc c'est aussi un peu en hommage à toutes ces femmes, toutes ces victimes que vous écrivez aujourd'hui, Estelle Sarabulle.
Oui, j'avais envie qu'on montre ça davantage parce que c'est encore peu abordé et on sait que ça a existé et que ça a été très dur pour elle.
Donc c'est un roman politique, féministe ?
Oui, on peut dire ça comme ça, même si il y a d'autres angles dans le livre. Donc on peut me dire aussi que c'est un roman sur la guerre froide ou un roman sur l'arme culturelle. Il y a plein d'angles possibles, mais effectivement, l'angle féministe existe.
Et un roman sur la musique, donc on le disait tout à l'heure, à laquelle vous faites une très très belle part dans ce roman, puisqu'on y voit donc Tom Jobim, Joao Gilberto ou Baden Powell. On les croise en train de composer, en train d'improviser, d'accompagner l'équipe du film. Est-ce que vous avez découvert l'importance de leur travail en écrivant ce livre ou vous étiez déjà fan de la bossa nova ?
Alors, j'étais fan de la bossa nova sans savoir exactement quelle était l'histoire de cette musique. Alors, un peu avant d'écrire le roman, déjà, j'avais lu un roman, c'est pas un roman d'ailleurs, c'est un documentaire qui parlait de ça, un livre qui s'appelle Bossa Nova de Jean-Paul Delfino, qui m'a beaucoup éclairé sur ce qu'était l'histoire de la bossa nova. Et ensuite, en écrivant sur ce film, j'ai creusé cette histoire-là et donc j'ai découvert toute cette aventure artistique très belle.
Et dire un petit mot d'Henri Salvador, qui serait un des interprètes français sans doute à l'origine de la bossa nova, en tout cas dont le travail aurait influencé les musiciens brésiliens. Oui. Vous nous le confirmez, Estelle Sarabulle ?
Je ne confirme pas, parce que ça, c'est une discussion de musicologues. Certains sont d'accord, d'autres non. Ce qui est sûr, c'est qu'il a vraiment été là au tout début du mouvement, voire avant, parce que lui, il fait une tournée au Brésil en 1946, donc à peu près 10 ans avant que la bossa nova explose. Et il impressionne beaucoup par sa voix et son jeu de guitare les musiciens sur place. Que ce soit Jobim ou Vinicius de Moraes ou João Gilberto, ils ont entendu Henri Salvador. Et je dirais qu'il a accompagné le mouvement et que c'est un des rares musiciens non brésiliens à avoir su écrire de la bossa nova et être aussi fort que ses contemporains brésiliens.
Est-ce que vous avez eu la tentation d'aller au Brésil au moment de l'écriture de ce livre, Estelle Sarabulle ?
Absolument, mais bon, le contexte de pandémie étant ce qu'il est, malheureusement, je ne suis pas allée. Et en plus, mon roman se passe il y a 60 ans, hein, plus de 60 ans. Donc, qu'est-ce que j'aurais retrouvé du Brésil d'il y a 60 ans en y allant en 2021 ? Sans doute plus grand-chose. Donc, à ce niveau-là, je n'ai pas de regrets. Je ne crois pas que ça m'aurait aidé à écrire le livre que d'aller sur place, voire ça aurait peut-être un petit peu perturbé les images que j'avais en tête, parce qu'il y a un Brésil moderne, évidemment, il y a un Rio moderne qui s'est construit par-dessus le Rio de cette époque.
Mais néanmoins, vous avez senti que... Il y avait une révélation, presque une déclaration d'amour à cette culture qui se fait grâce à l'écriture du livre aussi.
Oui, oui. Puis le Brésil est un pays qui m'a toujours fascinée, qui a une histoire tellement riche culturellement que même en dehors du film, mon amour pour ce pays était déjà là.
Avec des liens avec les Antilles, par exemple ?
Oui, oui, absolument. On peut faire des liens avec les Antilles parce que d'abord, c'est la même histoire esclavagiste et ensuite de société post-coloniale. Hein. Donc, on retrouve vraiment le même type de mélange de population, de métissage. Géographiquement, c'est pas si loin que ça. La musique a beaucoup voyagé entre les Caraïbes et le Brésil avec des influences croisées. Donc, c'est vrai que pour moi, je n'avais pas l'impression de sortir tant que ça de mon contexte culturel caribéen en allant au Brésil. Pour moi, c'est le grand voisin.
Et tout naturellement, vous écrivez ce magnifique roman de métissage, de tissage entre les cultures, entre les personnages et entre les différents thèmes, parce qu'on ne l'a pas encore vraiment dit, c'est également un roman d'espionnage, hein, avec dans l'ombre des agents de la CIA qui essayent de recruter des artistes pour qu'ils leur livrent des informations. Ce qui n'est pas sans nous faire penser d'ailleurs à Joséphine Baker, qui en son temps ne faisait pas qu'enthousiasmer les scènes du monde entier, mais qui se livrait aussi en coulisses à des activités d'espionne et de résistante.
C'est vrai, j'ai pensé à elle en écrivant le roman.
Merci beaucoup, Estelle Sarabulle.
Merci à vous.
D'être venue nous parler avec autant d'enthousiasme et de conviction de ce roman intitulé « Les étoiles les plus filantes » et qui est paru aux éditions Liana Lévy.
Merci.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Vous pouvez réécouter cette émission sur le site rfi.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.